Vous écoutez, on lit pour vous.
Manu n'a pas son T4. Il vit dans la rue. Un texte de Patrick Lagacé, paru le 7 novembre 2025 dans La Presse. Manu vit dans une tente sur le bord de la rue Notre-Dame, dans ce campement illégal, mais toléré. C'est quoi ton histoire, Manu? Il y a 5 ans, j'étais en appart à Marieville. Avec d'autres gars. On donnait l'argent du loyer à un des gars. On savait pas qu'il se mettait tout ça dans le nez. Le proprio nous a mis dehors. C'était en décembre, en 2020. Il s'en est allé à Saint-Jean-sur-Richelieu, où les ressources pour itinérants étaient assez minces, merci. Direction Montréal. Je me suis ramassée au refuge du YMCA. C'était l'enfer. Il y avait des batailles, il y avait des vols. Je suis partie avant de virer fou. Je me suis dit, je vais aller vivre dans une tente, le temps de me trouver un appartement. 3 ans et demi plus tard, Manu, de son vrai nom Emmanuel Boucher, vit encore dans une tente, dans ce campement en train de devenir un bidonville, au Bois et Vimont, sur le bord de Notre-Dame. J'ai essayé de trouver un appart. Il n'y en a pas. Enfin, pas à mon prix. Je travaille chez Cactus à temps partiel. Puis aussi, quand tu vis dans une tente, disons que quand tu rencontres un propriétaire, ça commence mal la conversation. Personne ne veut te louer. Cactus, c'est l'organisme qui vient en aide aux toxicomanes. Manu n'a pas de problème de consommation. C'est vraiment la pauvreté qui l'a fait atterrir dans la rue. C'est ici que je vous rappelle le dicton, appuyé par les statistiques et tout ce que l'itinérance compte de ressources. Le premier facteur de l'itinérance, c'est la perte de son logement. Tu perds ton appart, puis après, le marché locatif étant ce qu'il est, tu n'as juste pas les moyens de payer au prix du marché. Des prix de fou! Manu dit, ça a doublé, triplé. J'ai pas les moyens. À 43 ans, Manu vit donc dans une tente, sur le bord d'un boulevard urbain, dans Hochelaga-Maisonneuve, où les riverains en ont marre des incivilités, des vols et de tous les problèmes liés à ce qu'on appelle pudiquement le « vivre ensemble ». C'est le député Guillaume Cliche-Rivard qui m'a présenté Manu. Le solidaire s'active beaucoup sur l'itinérance et pour le logement social, un des outils pour sortir les gens de la rue et pour les empêcher d'y aboutir. Monsieur Cliche-Rivard a rencontré Manu au Bois et Vimont lors d'une visite sur le terrain. Manu lui a exposé un de ses griefs. Si je veux un logement subventionné via l'Office municipal d'habitation de Montréal ou via une des ressources comme la mission Old Brewery, a-t-il raconté aux députés, je dois présenter mes rapports d'impôts des 2 dernières années. Quand Guillaume Cliche-Rivard m'a raconté ça, je n'y croyais pas. C'est là que je lui ai demandé si je pouvais parler à Manu. C'est arrivé quelques jours plus tard, parce que, bon, Manu vit dans la rue, il a un cellulaire, mais il n'est pas toujours joignable. C'est quoi cette histoire de rapport d'impôt, Manu? Tout ce qui est subventionné, ça te prend un T4 pour faire ton rapport d'impôt. Mais quand t'es dans la rue, c'est plate à dire, mais t'as pas de place où te loger, te laver ou manger. Tes impôts, c'est la dernière chose dont tu te soucies. C'est ce qu'on lui a dit à l'Office municipal d'habitation, à la mission Old Brewery. Faut que tu produises tes rapports d'impôts. Je n'en croyais pas mes oreilles. Alors j'ai vérifié. À l'Office municipal d'habitation de Montréal, à la mission Old Brewery, on m'a expliqué que, oui, les rapports d'impôts sont des prérequis pour accéder à des logements subventionnés ou transitoires. Mais que c'est une exigence de la Société d'habitation du Québec, SHQ, dont le règlement sur l'attribution des logements à loyer modique gouverne tout cet écosystème de logement social. J'ai vérifié auprès de la SHQ. Je cite la réponse. Les demandeurs doivent fournir certains documents, dont une preuve de revenu, conformément au règlement sur l'attribution des logements à loyer modique. Ces documents permettent d'établir l'admissibilité et d'assurer l'équité entre tous les demandeurs. Mais, m'a-t-on assuré, la SHQ reconnaît que certaines personnes en situation d'itinérance ou de grande précarité peuvent difficilement fournir ces pièces justificatives. Et c'est pourquoi elle demande aux sociétés d'habitation de faire preuve de souplesse en demandant les preuves de revenus ultérieurement. Sauf qu'après avoir parlé à l'Office municipal d'habitation de Montréal et à la mission Old Brewery, j'ai l'impression que cette invitation à la souplesse de la part de la SHQ n'a pas ruisselé jusqu'à la base. À la mission Old Brewery, une équipe va à la rencontre des itinérants pour les aider dans la tâche titanesque de rétablir leur statut auprès des administrations. On commence avec les impôts, avec la carte d'assurance maladie, m'a expliqué Émilie Fortier, vice-présidente au service à la mission. Je dis une tâche titanesque parce que ces personnes sont dans la rue. Pour faire les suivis, pour amender une demande incomplète, c'est long. Comment tu retrouves un sans-abri à qui t'as parlé un mois plus tôt? Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Il y a une crise de l'itinérance au Québec. Ça dure depuis des années. Mais les itinérants peuvent se faire demander leur rapport d'impôt comme sésame pour sortir de la rue. Suis-je le seul à trouver ça fou? Est-ce que quelqu'un à Québec peut y voir? Me semble que les itinérants qui vivent dans une tente ne devraient pas s'engluer dans les sables mouvants de la paperasse pour avoir un logement. Manu, enfant de la DPJ de 12 à 18 ans, s'est vu remettre un sac poubelle avec ses affaires à sa majorité. Il a été sans-abri à Montréal il y a 25 ans. C'est quoi la différence avec 2025? Il y a encore plus de toxicomanie. Et il y a plus d'itinérants. Avant, l'itinérant, c'était le robineux du coin. Aujourd'hui, ça peut être le retraité du coin. Arnaud, chez Cactus, l'aide à se placer sur une liste d'attente pour un logement. Il croit qu'il y est. S'il avait été sur la liste il y a 3-4 ans, s'il n'avait pas eu à trouver ses T4 du BS, Guillaume Cliche-Rivard lui suggère la fin de sa phrase. « Peut-être que tu serais déjà dans un appart? » Peut-être. Manu vit donc dans sa tente, avec d'autres sans-abri, dans ce campement sur le bord de Notre-Dame. Il y a du monde qui se réveille au son des canards. Moi, je me réveille au son des connards. Qu'est-ce que tu veux dire, Manu? Les autos sur Notre-Dame nous klaxonnent, juste pour nous écœurer. Ça nous réveille en pleine nuit. Ça nous insulte. Ça nous dit « Va travailler, esti de BS! » Ce genre d'affaires-là. L'hiver s'en vient. Manu va le passer dans sa tente. L'hiver s'en ira. Le mépris, lui, restera. C'était « Manu n'a pas son T4, il vit dans la rue ». Un texte de Patrick Lagacé, paru le 7 novembre 2025 dans La Presse. Thank you.
Le mythe de la neutralité de la technologie avec Jacques Ellul, E-2-L-U-L. Un texte d'Antoine Chamberlain, qui est géographe de formation. Texte publié dans Le Devoir du 29 novembre 2025. Internet et les technologies numériques semblent désormais former le socle de l'expérience humaine. Aucune dynamique sociale, culturelle, économique et politique n'échappe à leur emprise. Le processus d'informatisation du monde, bien qu'inachevé, semble assez avancé pour que nous ne soyons désormais plus aptes à imaginer un monde déconnecté et sans numérique. D'un côté, nous sommes collectivement emballés par les promesses des innovations technologiques tels que les modèles génératifs de langage, communément et erronément appelés intelligence artificielle, et de l'autre, nous sommes terrifiés par les dangers causés par nos ambitions prométhéennes, tel un docteur Frankenstein tétanisé par le potentiel destructeur de sa propre création. Pour sortir de cette impasse, la réponse la plus courante consisterait à développer un meilleur numérique pour faire contrepoids aux mauvaises intentions de certains grands acteurs de l'industrie qui chercheraient à marchandiser notre temps de cerveau disponible. Cette réponse face aux risques que pose le numérique illustre parfaitement les œillères avec lesquelles nous regardons toute question technologique. En la matière, le travail du penseur technocritique Jacques Ellul peut nous aider à avoir une vision systémique du développement technologique qui nous montre comment il est illusoire de penser pouvoir un jour départager le bon du mauvais en matière de numérique. Pensée systémique. On a dit que le plus grand drame dans la vie de Jacques Ellul était celui d'avoir eu raison trop tôt. Au regard de notre époque numérisée et connectée, il apparaît difficile de comprendre pourquoi une pensée aussi riche passe encore sous le radar des courants dominants de la pensée critique. En effet, le contenu du « bluff technologique », son dernier ouvrage, paru en 1988, synthèse de sa pensée sur la technique, nous apparaît encore d'une troublante actualité. Selon lui, la technique, il préfère le terme « technique » à « technologie », qui fait plutôt référence à la pensée de la technique, s'érige en système en produisant non seulement des objets et des processus, mais également une pensée et des discours qui font du progrès technique une fin en soi, plutôt qu'un moyen. Un des éléments de discours produits par le système technicien les plus répandus est que le progrès technique serait inéluctable et que nous n'aurions qu'à nous y adapter. Pour illustrer ce discours fataliste, rapportons cette citation attribuée au tristement célèbre mathématicien John von Neumann, artisan de la bombe atomique et des massacres d'Hiroshima et de Nagasaki, ainsi que de l'informatique moderne. Citation : Ce que peut faire la technique est irrésistible pour l'homme. S'il peut aller sur la Lune, il ira. S'il peut changer le climat, il le fera. » Fin de citation. Bien qu'exprimé presque caricaturellement, ces propos résument à eux seuls la puissance du système technicien qui produit une idéologie identifiant le progrès technique comme objectif premier de l'humanité sans qu'on ait besoin de le justifier. Dans ce système technicien autodéterminé, faisant fi de la pertinence ou non de développer une technique, l'humain, comme étant, citation, tellement fasciné par le kaléidoscope des techniques qui envahissent son univers, qu'il ne sait et ne peut vouloir rien d'autre que s'y adapter complètement. Fin de citation. Cette injonction à l'adaptation empêche tout discours de fond capture la réelle pertinence des progrès techniques et nous fait voir l'avenir de l'humanité à travers une paille. C'est cet argumentaire fataliste sur l'inévitable progrès technique qui se cache derrière le discours très médiatisé de Joshua Bengio, pionnier et sommité mondial en intelligence artificielle, qui souhaite attirer du financement pour développer une intelligence artificielle sécuritaire pour l'humanité, entre guillemets, dans le but de faire compétition à une intelligence artificielle dangereuse qui pourrait, selon lui, littéralement mener à la fin de l'humanité. On comprend alors que Bengio est convaincu que le développement de l'intelligence artificielle est inéluctable et que nous devrons coûte que coûte nous y adapter. Tout cela sous peine de potentiellement disparaître sous la puissance de ce à quoi il a lui-même contribué à créer, faut-il le rappeler. Ainsi, la seule solution pour se prémunir des risques de l'intelligence artificielle serait de développer plus l'intelligence artificielle. Il ne se fait pas mieux en matière de prophétie autoréalisatrice. Devant la fatalité du progrès technique, tout ce qui resterait à faire serait donc de départager les bons usages des mauvais usages des technologies numériques pour pouvoir bénéficier au maximum des potentialités positives tout en minimisant les négatives. Neutralité. Pour Ellul, une telle chose relève du vœu pieux. Les techniques ne sont pas des objets neutres dans l'attente qu'un humain les utilise selon son bon vouloir. Pourtant, nous avons tous sûrement déjà émis ou entendu les arguments suivants ou des dérivés de ceux-ci. Citation : L'intelligence artificielle est là pour de bon. Il faut apprendre à bien l'utiliser. Ou bien, les réseaux sociaux ne sont pas bons ou mauvais en soi, c'est ce que nous en faisons qui les rend bénéfiques ou au contraire dommageables. Fin de citation. Ainsi, il ne dépendrait que des utilisateurs de se résigner au progrès technologique et de faire émerger le potentiel bénéfique, voire émancipateur, du numérique. Rien de plus faux. Selon Jacques Ellul, le penseur technocritique a bien démontré que la technique est avant toute chose ambivalente, c'est-à-dire qu'elle contient en elle-même des potentialités positives et négatives indissociables les unes des autres. Autrement dit, quand on invente le train, on invente en même temps le transport ferroviaire et le déraillement causant la mort. En concevant le moteur à explosion, on a certes permis le déploiement d'ambulances et de camions de pompiers, mais on a également ouvert la voie à l'étalement urbain, à l'émission massive de gaz à effet de serre, à la sédentarité de masse et à la mort de plus d'un million de personnes annuellement sur les routes du monde. Ce qui compte pour Ellul, ce sont beaucoup moins les usages individuels que l'ensemble de ses potentialités sur l'ensemble de la société. Par exemple, même si quelques personnes parvenaient réellement à maîtriser leur temps d'écran, ce ne sera toujours que peu de choses par rapport au problème de dépendance globale aux appareils numériques qui ne montrent aucun signe de ralentissement. Même si l'intelligence artificielle réussissait à améliorer quelques traitements de niche en médecine, qu'en serait-il de la consommation extrême d'énergie par l'intelligence artificielle, de façon globale, et de l'appauvrissement des facultés cognitives et relationnelles humaines, notamment par la production massive de contenus de très faible qualité? L'utilisateur possède certes une certaine agentivité dans son utilisation d'une technique, mais on ne doit pas négliger à quel point celui-ci est transformé au contact de cette même technique, révélant ici de nouvelles potentialités encore plus imprévisibles. comme Ellul le souligne, citation, « Nous ne sommes pas un sujet au milieu d'objets sur lesquels nous pourrions librement décider de notre conduite. Nous sommes étroitement impliqués par cet univers technique, conditionnés par lui. » Fin de citation. Plus une technique est complexe et est mise en relation avec d'autres techniques et humains, plus les effets seront imprévisibles. C'est cette imprévisibilité qui fait que, peu importe les intentions initiales derrière la conception de la technique, l'humain ne peut que minimalement intervenir dans l'apparition d'effets néfastes ou bénéfiques dans l'ensemble de la société. Qui aurait pu prévoir l'ensemble des conséquences de la mise en marché du premier téléphone intelligent sur la vie humaine? Qui peut se targuer d'avoir pu tracer l'ensemble des résultats du développement d'Internet jusqu'à ce jour? Qu'importe les bonnes intentions d'un programmeur qui développe un code source ouvert, si ce même code sert finalement à des impératifs militaires? Au moment où la voiture a été inventée, Henry Ford et son équipe n'avaient certainement pas en tête les émissions de gaz à effet de serre qui allaient alimenter les changements climatiques, pas plus qu'ils ne prévoyaient que les voitures allaient parfois servir d'armes pour commettre des attentats contre des civils. Bref, un grand nombre d'inventions techniques en apparence totalement bénéfiques pour l'humanité peuvent se révéler néfastes, voire délétères par la suite. La complexité de nos technologies numériques, qui ne cesse de s'accroître, rend impossible pour nous de prédire leurs conséquences futures et de nous en prémunir. Pensée technocritique. Bercé par les discours fatalistes et trompeurs du système technicien, il nous apparaît impossible de remettre en question l'existence même de l'intelligence artificielle, du numérique et d'Internet, qui sont pourtant des désastres avérés en matière de consommation énergétique qui appauvrissent de façon évidente les capacités cognitives et relationnelles de l'humain, qui nous volent des années de notre vie et qui assèchent de façon générale l'expérience humaine. Ellul croit qu'il est illusoire d'espérer que les problèmes causés par des usages d'une technique seront contrebalancés par de meilleurs usages. La pensée d'Ellul nous apparaît donc nécessaire pour exposer les stratégies mortifères du tout-au-techno et sortir de notre tâche sisyphéenne consistant à chercher sans cesse des moyens de nous protéger des effets désastreux de nos propres créations. Ellul nous amène donc à adopter une posture technocritique radicale qui accepte enfin que nous n'arriverons jamais à séparer le bon grain de l'ivraie en matière de numérique. Tôt ou tard, il faudra oser remettre en question la totalité du système technicien et, pour reprendre la célèbre formule d'Ellul, le sacré qu'on lui confère. C'était le mythe de la neutralité de la technologie avec Jacques Ellul, un texte publié sous la signature d'Antoine Chamberlain dans Le Devoir du 29 novembre 2025.
La ville de Québec figure dans un palmarès des 30 villes les plus favorables au vélo dans le monde. Un texte de Sébastien Tanguay, paru le 18 novembre 2025 dans Le Devoir. Longtemps reconnu pour son attrait pour l'automobile, Québec fait aujourd'hui son entrée dans un palmarès international des 30 villes les plus favorables au cyclisme dans le monde. C'est l'entreprise danoise Copenhagen Eyes, une référence internationale autoproclamée de la mobilité en petite reine, qui intronise la capitale québécoise dans son index annuel. Québec se hisse au 29e rang, tout juste devant Vancouver, mais encore loin derrière Montréal, première ville au Canada et en Amérique du Nord, en 15e position. C'est vraiment une entrée fracassante, se réjouit Jean-François Rault, président et directeur général de Vélo Québec. Québec n'était même pas sur la map des villes cyclables d'intérêt, et là, bang, elle arrive deuxième en Amérique du Nord. Le maire de Québec, Bruno Marchand, crie « mission accomplie ». Lui qui avait partagé avec les équipes de la ville à son arrivée aux commandes en 2021 son ambition de dépasser Vancouver dans ce palmarès qui fait autorité dans le monde. C'est comme si on était passé de la Ligue B anglaise à la Première Ligue. C'est aussi gros que ça, s'est réjoui M. Marchand mardi. Je suis vraiment, vraiment très fier et j'ai envie de vous dire qu'il reste 28 positions à aller chercher. La forte volonté politique en faveur du vélo, affichée par Bruno Marchand, est soulignée à grands traits par le jury. Avec un budget grandissant et une nouvelle équipe multidisciplinaire vouée au vélo, Québec a maintenant une structure et un élan favorable à la mise en place de projets transformateurs, note ce dernier. Copenhagenize salue notamment les corridors Vivacité, CVC, déployés par le maire au cours de son premier mandat et vivement décriés par ses adversaires au cours de la dernière campagne électorale. Ces voies cyclables ouvertes à l'année ont transformé une ville autrefois connue pour avoir des infrastructures cyclistes de piètre qualité en nouvelle Mecque de la Petite Reine, souligne l'entreprise. L'impact est immédiat. En bordure du CVC du chemin Sainte-Foy, le trafic à vélo et à pied a augmenté respectivement de 6,9% et de 94% entre 2023 et 2024. Les ventes au détail ont grimpé par près de 10%. Succès remarquable de à vélo. Le maire Marchand n'a pas l'intention d'en rester là. En 2023, il promettait d'ajouter déjà 150 km au réseau des corridors Vivacité à l'horizon 2034, un geste fort dans une ville où chaque projet de transport déclenche des débats acrimonieux, note le jury. L'index souligne également le succès remarquable de Avélo, le système de bicyclettes en libre-service de Québec, adapté à la topographie difficile de la ville. Depuis son inauguration en 2021, Avélo a connu une croissance fulgurante. À l'origine, environ 29 000 personnes avaient utilisé l'un des 100 vélos répartis dans 10 stations. En 2024, le service ralliait 1,3 million de déplacements et son réseau comptait 115 stations et 1 300 bicyclettes. Cette année, Avélo a connu sa plus importante expansion jusqu'à présent, avec l'ajout de 50 stations et de 500 bicyclettes électriques, ainsi qu'une prolongation de service jusqu'au 15 novembre. Mardi, le 18 novembre au matin, le réseau de transport de la capitale RTC annonçait que 42 795 usagers avaient réalisé près de 2 millions de déplacements avec Avélo au cours de la dernière saison. C'était « La ville de Québec figure dans un palmarès des 30 villes les plus favorables au vélo dans le monde », un texte de Sébastien Tanguay, paru le 18 novembre 2025 dans Le Devoir.